C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
Talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Eau de Radio en ce mardi 6 janvier 2026. Il est 14h pile. Oui, encore, comme hier et comme demain sans doute. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On vous souhaite qu'elle soit remplie de moments incroyables et improbables, mais aussi remplie de belles rencontres, d'amour et de santé, bien sûr. Et puis aussi que vous puissiez prendre le temps d'aller au cinéma et que nous puissions continuer à vous en parler dans Ciné-Sans. Le temps en cette nouvelle année est froid, très 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 froid. Alors, pour mettre un peu de chaleur et vous accompagner tout au long de cet épisode, les meilleurs sont présents avec moi en studio. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Patrick.
Bonjour Annelise.
Meilleurs vœux.
Bonjour Annelise. Dans le même sens.
Et c'est incroyable, on est en hiver, il fait froid.
C'est fou comme
il neige quelque part.
Il neige même quelque part sur la planète.
C'est impressionnant.
Incroyable.
Bon, bonne année à tous.
Et est-ce
tous.
Qu'on a souhaité bonne santé à Nicolas Sarkozy ou pas?
Non. Allez, pour ce 12e épisode de la saison 7, nous allons effectuer un petit retour en arrière et nous retrouver en 2019.
Cette année-là.
Voici un petit rappel de ce qui a fait l'actualité en 2019. Et ça commence en France dès le 1er janvier avec l'application du prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu.
Et alors le 12 janvier, une énorme explosion liée à une fuite de gaz fait 4 morts et 66 blessés à Paris. Vous vous rappelez, rue de Trévise, oui. Dans le 9e arrondissement.
Et pendant ce mois de janvier, le 23, au Venezuela, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido Márquez, s'auto-proclame président de la République. Mais le président élu, Nicolas Maduro, s'accroche à son poste. Le Venezuela vit donc avec deux présidents. Remarquez, en ce moment, il n'y en a pas.
Juan Guaido, c'est le président du Parlement vénézuélien. Mercredi 23 janvier, il s'est auto-proclamé président en exercice du Venezuela. Son but, c'est que Nicolas Maduro, le président du Venezuela depuis 2013, quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Ce départ, de très nombreux Vénézuéliens le réclament aussi. C'est pour cette raison que des dizaines de milliers d'entre eux manifestaient mercredi 23 janvier. Et plus le temps passe, plus la pression s'accentue sur Nicolas Maduro. Depuis 2014, ses adversaires lui reprochent principalement de contourner la Constitution. Ils lui imputent aussi l'effondrement de l'économie du pays. Mais malgré les nombreuses manifestations, malgré une inflation monstre, le FMI prévoit qu'elle atteindra 10 000 000% en 2019. Et malgré le départ à l'étranger de beaucoup de Vénézuéliens, Nicolas Maduro tient bon. Il a été élu président en mai 2018 et investi le 10 janvier pour un deuxième mandat de 6 ans. Mais ce mandat est contesté par l'opposition, comme par les États-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine. Du coup, le président des États-Unis, le président brésilien et 10 autres pays ont reconnu, sitôt autoproclamé, Juan Guaido, président du Venezuela. Quant à l'armée vénézuélienne, elle rejette l'autoproclamation de Juan Guaido comme président par intérim.
Il faut resituer les choses, ça se déroulait il y a 7 ans.
Hein, oui, c'était en 2019.
Il ne faut pas confondre.
Parce que ça, on traite l'année 2019. Donc,
tout à fait.
C'est pas en 2026. Alors le 15 mars, figurez-vous que la Nouvelle-Zélande connaît deux attentats commis contre des mosquées à Christchurch par un extrémiste de droite. Ils font 51 morts et 49 blessés.
Enfin, pour clore le premier trimestre, le 31 mars, en Ukraine, Volodymyr Zelensky, humoriste et candidat du parti Serviteur du Peuple, arrive en tête au premier tour des élections présidentielles avec plus de 30% des voix.
Et durant le festival de Cannes, le 21 mai, tiens, pour être bien précis, sort Once Upon a Time in Hollywood, écrit, coproduit et réalisé par Quentin Tarantino. Il s'agit d'une uchronie, c'est-à-dire une reconstitution fictive de l'histoire relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire. Et cette uchronie se tourne autour de la carrière déclinante d'un acteur fictif, Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio, flanqué de son ami Cliff Booth, sa doublure de toujours pour les cascades, le rôle étant tenu par Brad Pitt. Et on retrouve aussi le meurtre bien réel de Sharon Tate, joué par Margot Robbie, perpétré en août 69 par la famille Charles Manson, un drame auquel Tarantino donne une issue différente, toute personnelle. On y reviendra.
On connaît Tarantino et son immense culture cinématographique. Il en fait à nouveau une démonstration remarquable. Il a puisé cette fois son inspiration sur les seconds couteaux du cinéma, les cascadeurs et les acteurs de série B. Alors dans les deux rôles, DiCaprio et Pitt sont parfaits. Léo est génial en comédien raté qui cherche une seconde voie à sa carrière. Et Brad est immense dans son rôle de comparse. La variation entre la fiction et la réalité est subtile. Mais ici, le réel est aussi une fiction. Il n'empêche que Tarantino s'amuse avec les codes. Les couleurs sont importantes, on passe du jaune pétant au rouge sang. On passe de la caméra du réalisateur des films de Rick Dalton à celle plus torturée de Tarantino. On passe d'une époque à une autre, bande-annonce.
Moi, c'est Rick Dalton. C'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Un acteur est amené à faire tout un tas de choses dangereuses.
Qui a commandé les saucisses de Francfort bien grillées ?
Cliff m'aide à assumer certaines charges.
Super ami, on dirait.
J'essaye. Qui est-ce qui s'installe à côté de chez moi ?
C'est moi, Sharon Tate.
C'est l'actrice la plus en vue à Hollywood, voire dans le monde entier.
Madame ?
Oh, c'est là que ça se gâte.
Toutes ces tueries. C'est vraiment mon truc, ça.
Qu'est-ce qu'il a dit, Charlie ?
Il a dit tuer tout le monde.
Comment on fait ? On le chope !
Il y a une part de réel combat. Si tu le bats pas, c'est lui qui tue.
Sauf quand Rick Dalton sort son fusil de chasse. J'ai une arme de dingue que je vous conseille pas d'avoir aux fesses.
Ah, merde. Ouais, non, là, c'est trop chaud.
Y a rien à faire contre cette chaleur ?
Rick, c'est un lance-flamme.
Ouais.
La longue scène du tournage d'un western avec DiCaprio et Timothy Olyphant est un pur régal. Tout comme lorsque Léo pète les plombs dans sa caravane. Tiens, d'ailleurs, à la fin de cette scène, il regarde le miroir, filmé de telle sorte qu'on puisse le voir droit dans les yeux. C'est une vraie performance d'acteur.
Julia Butters, qui joue la gamine Trudy Fraser, est également hyper touchante. C'est un clin d'œil à la jeune Jodie Foster de l'époque, qui est devenue la grande actrice qu'on connaît.
Oh oui.
Et alors, Patrick, on sera d'accord, tout le film est rempli de scènes géniales.
Ah bah oui.
Ah oui, c'est incroyable.
Seul sait les faire, là, Tarantino, d'ailleurs. Les deux scènes avec la gamine, donc la baston avec Bruce Lee. Oui. DiCaprio et Pitt au volant d'une Cadillac beige rutilante, n'est-ce pas ? Brad aussi qui traîne sa cool attitude à longueur de film.
Ah oui, c'est absolument génial. Oui, tiens, et la fameuse soirée durant laquelle Sharon Tate a failli être tuée par tuée par Manson a été totalement bouleversée. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais c'est chez Rick que les sbires de Manson débarquent avec la ferme intention de le tuer. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et nous assistons, médusés, à un final à couper le souffle, avec cette manière qu'a Tarantino de nous faire passer d'un climat serein à une violence extrême. Ah, nous attendions ce déferlement, hein, sans doute, mais le film de Tarantino, sans ses excès, ne serait pas tout à fait le même. Exact. Et Léo et son lance-flamme, qui crame tout, méritent d'être vus.
La bande originale du film regroupe principalement des chansons pop-rock des années 60, telles Ramblin' Gamblin' Man, de et par Bob Seger,
Seger,
sorti en 1968.
À peu près, oui.
I was born lonely down by the riverside.
Alors le deuxième trimestre de 2019 commence tragiquement. Le 15 avril, un gigantesque incendie emporte les deux tiers de la toiture et la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Un gigantesque incendie vient d'éclater en fin d'après-midi. Les images sont extrêmement impressionnantes. Le toit est en feu et la flèche vient de s'effondrer.
Oui, absolument. Je suis à quelques mètres tout autour. Il y a des centaines de personnes qui assistent à la scène. On reçoit par moments des braises, des morceaux de braises. C'est vous dire à quel point l'incendie est violent ici. C'est la stupéfaction.
Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Elle l'a bien dit, c'est dingue. Mais ça nous a... Vous savez, Anne-Lise, vous m'avez dit tout à l'heure, il fait très froid.
Oui. Oui.
Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi dans ces cas-là?
On peut. On
s'assoit avec un chocolat chaud.
Voilà, et puis on s'assoit sur son canapé, on allume la télé. Et puis
avec
on
une
voit
petite galette des rois.
On voit des films qui nous intéressent, plus ou moins. Donc on a choisi chacun un film qui va passer à la télé dans la semaine à venir.
Oui, tout oui. à
et
fait.
Et alors, donc ce film, on va commencer. Tiens, on va commencer par Anne-Lise.
Oui.
Eh bien, ce film, c'est Django Unchained.
Alors, d'accord. Alors,
sur France 4, oui. À 21h.
À quelle heure?
À 21h, le 8.
Ah, le jeudi.
Tout à fait, bravo.
France 4, le 8, je note. Hein,
21h, ouais. C'est un film de Quentin Tarantino.
Ah bon?
Ah, encore?
Mais oui. Oui. Avec Jamie Foxx, Christopher Walker, Leonardo DiCaprio.
Leonardo.
Leonardo,
je
oui.
Pas, c'est le frère
Samuel Lee Jackson et Kerry Washington. En fait, c'est l'histoire d'un prisonnier esclave qui s'appelle Django, qui croise la route d'un dentiste allemand qui cache une sacrée identité assez redoutable. Et donc, tout ce monde va se retrouver à essayer de se battre. L'esclave va essayer de Django va essayer de retrouver sa femme qui a été achetée par Leonardo DiCaprio.
Enfin, par le personnage que joue.
Par le personnage que joue Leonardo, tout à fait.
Il
n'aurait
jamais acheté une vieille.
Non. Oh, bah non.
Et bien, ça, c'est intéressant. Alors, violence encore dans ce film.
Bien sûr, violence, pas à mettre entre toutes les mains, mais incroyable performance encore, que ce soit de Christopher Walker, de Leonardo, Jamie Foxx. Enfin, c'est toujours incroyable.
D'accord, donc c'est sur France 4.
C'est sur France 4 à 21h, jeudi le 8.
D'accord, merci, je l'ai noté. Patrick, vous me laissez la parole ou vous la
Je vous laisse la
non,
parole, chacun des idées, allez-y.
Bon,
non,
alors moi, qu'est-ce que... Attendez, je prends mes fiches parce que je n'ai pas mémorisé le truc. Alors oui, c'est lundi 12 à 22h55.
Oh là, mais c'est tard.
Oui, c'est sur Canal Plus Grand Écran. C'est Les Femmes du Sixième Étage.
Ah oui,
comédie de Philippe Le Guay. De 2010. Alors, on est à Paris, n'est-ce pas, dans les années 60. On fait la connaissance de Jean-Louis Joubert, qui est un agent de change, rigoureux, mais quelque peu coincé.
C'est lui qui lit ?
Oui, tout à fait. Il découvre qu'il y a des bonnes Espagnoles qui vivent au sixième étage de son immeuble bourgeois qu'il habite. Eh bien, grâce à Maria, qui est une jeune femme qui travaille pour lui, il va découvrir un univers à l'opposé des manières et de l'austérité de son milieu. Voilà, il va être touché par ces femmes pleines de vie. Il va se laisser aller et connaître les plaisirs simples pour la première fois. Bon, alors c'est une comédie tendre, hein, sur l'immigration envisagée comme une chance, voilà, avec de très bons acteurs. Vous avez signalé Fabrice Lucchini, il y a aussi Sandrine Kéberlin, Carmen Maura et Audrey Fleurot. Voilà, c'est le 12 janvier, lundi, 22h55, ciné, Canal Plus Ciné, grand écran. Voilà.
Très bien.
Et vous, Patrick ?
Eh bien, moi...
Qu'est-ce que vous allez nous
sortir ? Moi, j'ai quelque chose. C'est mercredi. C'est donc demain soir.
Ah, déjà ?
Ah. Oui, demain soir, oui. Ah, oui. À quelques heures du traditionnel réveillon de la Saint-Sylvestre.
Il n'y a pas de titre.
Le notaire Jérôme Martillo, libéré de ses obligations professionnelles, s'apprête à rejoindre les siens pour fêter dignement l'arrivée du nouvel an.
On a compris.
Mais avant de réintégrer le domicile conjugal, reste à Martillo une dernière formalité à accomplir. Répondre à la convocation que lui a adressée l'inspecteur Gallien. Celui-ci voudrait en effet obtenir de sa part quelques éclaircissements sur une affaire qui a défrayé la chronique, la découverte une semaine plus tôt des cadavres de deux fillettes qui avaient été violées et étranglées. Le film, c'est Garde à vue, comme tout le monde l'a reconnu.
Oui, bien sûr.
Je ne pouvais pas passer à côté de ce film que j'adore. Je crois que je connais tous les plans par cœur, je connais toutes les répliques par cœur, et c'est avec un Michel Serrault qui est éblouissant, qui est d'une profondeur d'âme, un Lino Ventura qui est à la fois sérieux et bonhomme, un Guy Marchand qui est à la fois facho et facho, et surtout une des dernières apparitions de Romy Schneider.
Oui,
dans ce film-là. Et c'est un film qui... voilà, pour moi, c'est un des plus grands films français.
Vous oubliez une chose, quand même, c'est de citer le réalisateur.
Oui, c'est Claude Miller.
Ah, ben voilà.
Oui, c'est Claude Miller, oui, bien sûr, vous avez raison.
C'est peut-être le meilleur film de Claude Miller.
C'est sans doute le meilleur film de Claude Miller. Et alors, si je vous dis que les dialogues sont ciselés par Michel Audiard,
oui, bien sûr.
Ça vous dit quoi?
Ça vous dit que c'est
ça me dit qu'il y a une réplique qui me... Il y a Serrault qui dit à un moment donné à Gallien, il dit, vous savez ce qui peut séparer un couple? Il peut y avoir la maladie, il peut y avoir la mort. Eh ben moi, c'est 15 mètres. C'est la distance qui sépare ma chambre
couloir,
de la chambre de ma femme. Et quand il dit ça, il a une émotion. J'en ai les larmes aux yeux tellement ce film me porte. Et enfin, c'est un vrai chef-d'œuvre.
Ok, alors c'est où, à quelle heure et
c'est sur Arte à 20h55 demain soir.
Demain soir.
Eh ben très bien. Eh bien, on va faire un petit retour au calendrier 2019.
Allons-y, soyons fous.
Le mois d'avril nous apporte de bonnes nouvelles. Le 21 avril, Volodymyr Zelensky est élu président de l'Ukraine avec 73% des voix.
Ah oui, quand même.
Eh oui.
Alors, une autre victoire qui n'est pas sur le terrain politique, mais sportive, celle-ci. Le 9 juin, figurez-vous que l'Espagnol Rafa Nadal remporte, lui, la deuxième victoire en finale du tournoi de Roland-Garros.
Il est mexicain.
Pourquoi cet accent
C'est l'espagnol.
Non, c'est l'accent mexicain que vous avez fait. Là.
Bon, il est à moitié mexicain, il est au Baléares.
7 jours plus tard, une panne d'électricité affecte pour la journée tous les habitants de l'Uruguay, ainsi que ceux d'une partie de l'Argentine et du Paraguay, soit 48 millions de personnes. C'est pas mal quand même.
Beaucoup, hein.
Oui.
Alors, plus d'électricité d'un côté, mais trop de chaleur de l'autre, puisque le 28 juin, en pleine canicule, le record de chaleur en France est battu à Vérargues, c'est dans l'Hérault, avec une température de 46 degrés.
Dis donc.
En plein été, le 11 juillet, Vincent Lambert décède après plus de 10 ans de coma des suites d'un accident de moto. Acharnement thérapeutique et intégrisme religieux pour les uns, crime ou euthanasie pour les autres. L'affaire Vincent Lambert a déchiré sa famille et mobilisé le système judiciaire et les médias pendant plus de 6 ans.
Et figurez-vous que fin juillet... Ygraine Bernal.
Non, vous allez
non,
pas.
Non, vous avez... non, mais vous arrêtez.
C'est le premier Colombien à remporter le Tour de France. Et le Français Julien Alaphilippe, qui a été maillot jaune pendant 14 jours, eh ben, il finit 5e.
En fait, vous êtes très mauvais pour les...
pour les accents. Oui, je sais.
Mais oui.
Mais je persiste.
Oui, vous avez raison, oui. Et alors, vas-y.
Eh bien, début septembre, les Bahamas sont secouées par Dorian, un ouragan dévastateur qui les frappe de plein fouet. Des pluies diluviennes et des rafales avoisinant les 300 km/h font des dommages sans précédent, avec plus d'un millier de disparus et la destruction d'environ 13 000 maisons.
Et ce sont des scènes qui se reproduiront après dans...
Tout à fait, qu'on va revoir et qui sont plus malheureusement choquantes.
Tout à fait. Et c'est le 23 septembre que s'ouvre le procès du Mediator, un médicament de laboratoire Servier qui pourrait faire plus de 2 000 morts, alors que le laboratoire a déjà versé plus de 100 millions d'euros aux victimes.
C'était il y a 15 ans, mais Lisa Boussinou en parle comme si c'était hier. Sa mère, Pascale, 51 ans, est morte subitement d'un œdème aigu du poumon.
Son cœur, c'est comme s'il avait explosé. Et en 15 minutes, je peux plus respirer, j'ai de la mousse blanche et rose qui sortent de mon nez et je décède en 15 minutes.
Cette ancienne professeure devait surveiller son poids pour des raisons de santé. Alors, comme 5 millions de Français, elle se voit prescrire le médicament star du laboratoire Servier.
Le laboratoire continue à dire qu'il n'a jamais trompé les patients au sujet du Mediator et ce sera sa ligne de défense durant ces 6 mois de procès.
Le laboratoire a déjà versé près de 115 millions d'euros à quelques 3000 victimes du Mediator. Mais il ne semble pas souffrir du scandale. Le chiffre d'affaires du deuxième laboratoire pharmaceutique français augmente chaque année et dépasse les 4 milliards d'euros.
Sans transition, Parasite est un film sud-coréen réalisé par Bong Joon-ho, présenté le 21 mai 2019 lors du Festival de Cannes. Alors, il met en scène les membres d'une famille pauvre qui élabore un stratagème pour être employé par une famille riche et s'infiltrer son foyer en se faisant passer pour des personnes hautement qualifiées.
Alors, rappel des faits, les Kim habitent le sous-sol insalubre d'une maison coréenne dont les seules fenêtres donnent sur une rue bruyante et sale. Cette extrême précarité n'empêche pas les quatre membres de cette famille d'être soudés, toujours à la recherche d'un réseau Wi-Fi gratuit ou d'un travail. C'est ainsi qu'ils plient des cartons de pizza dans la pizzeria du coin. Et comme le job est mal payé, ils tentent de suivre la technique enseignée sur Internet par une spécialiste. Ouais, enfin néanmoins, la responsable leur fait le reproche d'un travail mal fait. Alors le salut vient d'un ancien camarade de classe de Ki-woo, le fils, qui, devant partir pour un voyage d'études, le pistonne pour prendre sa place pour enseigner l'anglais à la fille d'une riche famille de la capitale, les Park. Et c'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. Bande annonce.
Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau.
On n'a plus de Wi-Fi maintenant.
Ah, ça y est.
Rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies.
Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir, tes parents, en tout cas. Ils ont l'air en forme.
Oui, mais sans boulot.
Tu vois cette fille? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais.
Mais j'ai zéro diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts.
Oh, ferme-la.
S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo.
Tu sais, papa, je vois pas ce diplôme comme une contrefaçon.
Il y a une opportunité à saisir.
J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Dasong, lui, c'est un artiste né. On a essayé tellement de professeurs d'art plastique. Aucun d'eux n'a tenu un mois.
Je connais peut-être quelqu'un.
Tu sais le plus bizarre dans tout ça?
Ben oui.
Nous n'aurons pas la réponse car Bong Joon-ho a voulu préserver le plus possible le mystère autour du film. Il a même écrit une lettre à l'intention des journalistes leur demandant de ne rien dévoiler de l'intrigue. Et la lettre disait
« Quand vous écrirez une critique sur le film, je vous prie de bien vouloir éviter de mentionner ce qui va se passer après que le fils et la fille ont commencé à travailler chez les Park. Ne rien révéler sera pour le spectateur et l'équipe qui a rendu le film possible. » Une véritable offrande.
Avec son film, Bong Joon-ho décrit les inégalités qui se creusent de plus en plus, non seulement dans la société coréenne, mais aussi dans le monde entier, où le capitalisme règne sans partage. Seul l'emploi permet à différentes classes sociales de se rencontrer, et Bong Joon disait...
Dans la société capitaliste d'aujourd'hui, il existe des castes qui sont invisibles à l'œil nu. Nous les tenons éloignés de notre regard en considérant les hiérarchies de classe comme des vestiges du passé. Alors... qu'il y a encore aujourd'hui des frontières infranchissables entre les classes sociales.
Alors, petit rappel, Parasite a remporté la Palme d'Or
du
Festival de Cannes. C'est la palme la plus vue en France depuis 16 ans, avec près de 2 millions d'entrées.
En même temps, il est incroyable, le film.
Parmi ses nombreuses autres récompenses figurent 4 Oscars, n'est-ce pas ? Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international. Et la musique est signée Jung Jang-il. Lee. Alors, quand on repense à l'année cinéma 2019, on ne pense pas qu'à des chefs-d'œuvre, on est d'accord.
Bah non.
Ouais. On pense surtout à une année, on va dire en montagne russe. Là. Alors, des sommets, des creux, bien sûr. Et beaucoup de salles obscures. Alors, tout commence avec quelques espoirs vite refroidis. Glass ou X-Men Dark Phoenix, qui promettent beaucoup, mais qui laissent surtout un goût de dommage. Très vite, on comprend que cette année ne sera pas irréprochable, mais au moins, elle sera intense.
Et puis arrive avril et Avengers Endgame. Là, impossible de nier l'événement. Trois heures, une décennie de films qui se concluent, des applaudissements en salle. Le film devient le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial. Un triomphe, même si certains y voient déjà la fin d'un âge d'or du blockbuster. Et oui, l'été poursuit ce mélange étrange. En juillet, Le Roi Lion, en version réaliste, impressionne techniquement, mais laisse beaucoup de spectateurs très froids.
Comme le temps. À la rentrée, paf, tout reprend de la hauteur.
Paf,
c'est Portrait de la jeune fille en feu s'impose doucement, vous savez, avec Adèle Haenel. Eh bien, ce film remporte. Pardon ?
Que vous aimez bien comme actrice.
Que j'aime bien depuis que j'ai revu 120 battements par minute.
Alors après.
Ce film remporte le prix du scénario à Cannes et devient un immense succès critique et culturel. Puis, on vient de le voir, il y a Parasite, sorti discrètement au printemps, puis raz-de-marée mondiale, la preuve que le cinéma peut encore surprendre là où on ne l'attend pas.
L'année se termine avec Star Wars, l'ascension de Skywalker, fin d'une saga mythique. Réception tiède, débat sans fin, sentiment mitigé, une conclusion imparfaite mais symbolique. Au fond, 2019 a produit des films brillants, d'autres oubliables, parfois même franchement ratés. Cats, par exemple, dont on préfère presque rire aujourd'hui. Mais c'était une année vivante, généreuse, imprévisible. Une année où le cinéma occupait encore tout l'espace et sans qu'on le sache, la dernière avant un long silence qui dure encore.
Alors certains autres silences sont définitifs, c'est ceux des disparus de l'année et il y en a beaucoup. Alors pour ne citer que les nonagénaires, il y a le prolixe et iconoclaste Jean-Pierre Mocky, la profonde Agnès Varda, le truculent Charles Gérard, le berlusconien et néanmoins spécialiste de l'opéra Franco Zeffirelli, et enfin la doyenne Doris Day qui décède à l'âge de 97 ans. Autre décès, le 26 janvier, celui à 86 ans du compositeur Michel Legrand. Alors en 68, il composa la chanson « Les moulins de mon cœur » pour le film « L'affaire Thomas Crown »
bien sûr.
De Norman Jewison. Oscar de la meilleure chanson originale, Michel Legrand en fit une version en français en 69 sur des paroles d'Eddie Marnay.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus. Et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur Eau de Radio 91.3, bien entendu.
Batman a un nombre d'ennemis qui, arpentant les bas-fonds de Gotham City, ruminent de sombres pensées. Parmi eux, il y en a un qui domine l'imaginaire collectif. Maquillé de clown, sourire de démon, costume criard et cheveux peinturlurés, le Joker dégage un sentiment de dangerosité inquiétante et implacable. Le premier Joker de l'histoire a été incarné par César Romero, vinrent ensuite Jack Nicholson et encore Heath Ledger, qui en 2009 recevait à titre posthume l'Oscar bien mérité du meilleur second rôle dans The Dark Knight de Christopher Nolan.
C'est tout à fait mérité, je suis d'accord avec vous.
Mais alors,
celui dont on va parler maintenant, campé par Joaquin Phoenix, qui n'a pas hésité à perdre plus de 23 kilos pour incarner le psychotique Arthur Fleck, le Joker, revisité par Todd Phillips, est présenté en première mondiale à la Mostra de Venise le 31 août, où il a reçu le Lion d'Or, revient sur les origines obscures de l'ennemi de Batman dans un Gotham en proie à une crise sociale. L'extrait qui vient met en face Joaquin Phoenix et Robert De Niro. On verra pourquoi après.
J'ai tué ces trois traders de Wall Street.
Ok, j'attends la chute de la blague.
Non, il n'y a pas de chute. C'est pas une blague.
Vous êtes sérieux alors, hein? Vous dites que c'est vous qui avez tué ces trois jeunes dans le métro. Et au nom de quoi, on vous croirait?
Je n'ai plus rien à perdre. Plus rien ne peut m'atteindre. Ma vie n'est plus qu'une immense comédie.
Je veux être sûr de comprendre. Vous croyez que tuer ces trois gars, c'était comique?
J'en suis sûr. Et j'en ai marre de faire comme si ça l'était pas. Alors que vous tous, vous décrétez...
Il y a un petit bug. Tu m'as mis la chanson d'Ace Bonanga de Johnny Clegg en numéro 11.
D'accord.
Il n'y a pas de numéro 11. Et je me demandais pourquoi elle était là.
Vous tentez de lancer un mouvement et d'en devenir le symbole.
Honnêtement, Murray... J'ai une tête de clown capable de lancer un mouvement. J'ai tué ces gars parce qu'ils étaient immondes. Tout le monde est vraiment immonde à l'heure actuelle. Il y a de quoi rendre fou la terre entière.
D'accord. Alors c'est ça, vous êtes fou. C'est ça votre défense pour le meurtre de ces trois jeunes hommes?
Non. C'est que même sous la menace d'une arme, ils continuaient de chanter faux. Ah, oh, pourquoi tout le monde se lamente?
Je viens de me dire, mais il n'y a pas de 11, mais...
Si c'était moi qui
accueillissais
sur le
trottoir,
vous m'auriez simplement marché dessus. Je passe devant vous chaque jour, vous ne me remarquez pas. T'es allé voir un peu comment c'est dans le vrai monde, Murray. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Il n'y a plus aucune bonne manière. Il n'y a plus personne qui se demande ce que c'est que d'être le gars d'à côté. Tu crois que les types comme Thomas Wayne, ça leur arrive de se demander ce que c'est que d'être dans ma peau? D'être autre chose que ce qu'ils sont? Absolument pas. Tout ce qu'ils se disent, c'est qu'on va rester à notre place et encaisser comme des bons petits gars et qu'on va pas devenir fous furieux comme des loups-garous.
De ses séances de psy à sa relation complète avec sa mère, en passant par son entrée progressive dans la folie, le plus fascinant des méchants des DC Comics révèle ici une part de sensibilité et de fragilité qu'on ne lui connaissait pas. Comme si Todd Phillips avait voulu en faire un martyr, rejeté par la société et traumatisé dès l'enfance. un virage psychologique à vif, souvent perturbant, qui assura à Joaquin Phoenix l'Oscar du meilleur acteur en 2020. Deux vertus font de ce Joker un grand film. La première est que c'est dû à l'immense talent de Joaquin Phoenix. La peau sur les os, le dos voûté, le corps désarticulé, le feu dans les yeux, il campe un Joker tour à tour englué dans sa masse prolétaire, teinté de grâce quand il se prend à l'illusion du rêve américain et frénétique dès lors qu'il mesure l'étendue de sa naïveté. L'autre grande vertu tient au parti pris de Todd Phillips d'en référer plus volontiers à l'humanisme et au réalisme social qu'à la déréalisation propre au genre super-héroïque. Il marque également sa liberté par l'écriture d'un scénario original qui non seulement façonne un passé au Joker, mais lui confère comme une nouvelle identité.
Alors on en conviendra, le film est sombre,
hein. Ah oui,
désenchanté, comme si la vie de Joker et celle de la ville de Gotham n'étaient que les prémices d'une fin du monde annoncée. Phillips a su s'approprier la légende de Joker sans sacrifier aux thèmes essentiels de Batman, c'est-à-dire la défense des faibles et des opprimés, la lutte contre le crime et la violence.
Arthur Fleck, jeune homme disgracieux vivant avec sa vieille mère, frappé d'une maladie nerveuse qui lui colle sporadiquement, un rire inextinguible aux lèvres, travaille ici comme clown publicitaire dans un Gotham qui évoque le New York des années 70. Et le jeune homme étant en butte à l'hostilité du monde environnant, dominé par la loi du plus fort et par le pouvoir de l'argent roi. Le récit est truffé de notations sociales qui montrent une ville au bord de l'émeute, en proie à l'ensauvagement de l'ultralibéralisme.
Et oui, c'est ce qui soutient Arthur face à ses épreuves et à son aspiration à devenir un artiste de la scène comique. Il écrit à ses heures perdues des sketchs qu'il se récite devant sa glace ou à une bonne amie compatissante. Et il n'aura de cesse de rencontrer son idole, le stand-upper Murray Franklin, Robert De Niro, avec une référence directe à la valse des pantins de Scorsese. La bande originale, qui reprend Spanish Flea d'Herb Alpert, est interprétée pour le film par Ray Davies and his button-down brass.
Tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Eh oui, on vous le répète semaine après semaine que ça, c'est vrai, que le cinéma, c'est bien à la télévision, mais que c'est quand même vachement mieux au cinéma.
Oui, d'autant plus que vous avez vu les chiffres pour 2025 ?
Absolument,
de fréquentation,
oui.
Ils sont en baisse.
En baisse, oui.
C'est nette
en baisse.
Baisse.
Donc, il faut aller au cinéma.
En
oui.
Même temps, quand on voit les films qui sortent, pardon, hein,
voilà,
mais il y a quand même une pauvreté dans le cinéma actuellement. À part, on va dire, dans le cinéma d'auteur, mais il faut creuser. Il faut aller dans les toutes petites salles encore quand on arrive à en trouver. Quand on voit les affiches de films, pardon, mais c'est d'une... ça donne pas envie.
C'est d'une indigence rare.
C'est ça.
Donc on incite les gens à aller au cinéma, mais encore faut-il qu'il y ait de bons films qui soient projetés.
Allez voir Avatar.
En fait, c'est, le truc, c'est que quand on sait que j'ai vu un post la dernière fois sur les meilleures sorties à voir sur 2026, c'est soit des remakes, soit des films, des reprises de dessins animés, soit des suites de films de suites. Enfin, au bout d'un moment, je pense que
Mais les temps sont durs.
On a arrêté, quoi.
Il est même question de faire un Titanic 2 parce que...
C'est catastrophique, quand même.
J'ai pas compris ce que vous avez
dit. Il est question de faire un Titanic 2.
Ah, Titanic, oui. D'accord. Mais Titanic,
moi, je suis allée voir Anaconda au cinéma.
Et alors
Anaconda.
Avec Jack Black.
Avec sa fille.
Elle va bien.
Elle va très bien.
Et elle a sa fille dans le film ou pas?
À qui?
À Anaconda. Bon, c'est pas grave.
Vous sortez, Jean-Jacques.
C'est le plus c'est la plus mauvaise blague de 2026.
Ouais, 2026, là, on a touché le fond aussi en blague.
Pour le
merci. On se voit juste après, Anne-Lise.
Oui, tout à fait.
Et alors donc, voulez-vous que nous parlions des sorties qui vont avoir lieu demain?
Oui, allons-y.
Allez.
Bon, alors, qui commence?
Ben, moi, je commence.
Allez-y, Patrick.
Ça me fait plaisir. Alors, moi, c'est un film allemand de Masha Schelinski avec Anna Eck, Lena Unzerdowski et Laini Gessler. Quatre jeunes filles à quatre époques différentes, Alma, Erika, Angelika et Lenka, passent leur adolescence dans la même ferme au nord de l'Allemagne. Alors que la maison se transforme au fil des siècles, les échos du passé résonnent entre ses murs. Malgré les années qui les séparent, leur vie semble se répondre. Alors, j'ai vu la bande-annonce. C'est un film très, très, très étrange et prenant. La bande-annonce est très inspirante. Et figurez-vous que ça a quand même été prix du jury au dernier festival de Cannes.
Ah oui.
Quand même.
Bravo.
C'est pas du pipi de chat. Hein. Non, c'est un très, très...
C'est une garantie, oui.
Les images sont très, très belles de ce que j'en ai vu. Et c'est une vraie garantie. Oui, tout
ok,
à fait.
Très bien.
Voilà.
Après
bah après, j'en ai un deuxième, mais je pense que vous l'avez aussi.
Oui, moi j'en ai un, mais je crois que c'est le même. Qu'est-ce que vous faites, Anne-Lise?
Eh bien, moi j'en ai un autre. Alors j'en ai deux aussi, je crois qu'on a le même.
Alors prenez celui que vous avez, que j'ai pas.
Eh bien voilà, alors je vais vous parler du film Les Lumières de New York de Loi Li Choy. C'est un film chinois. L'histoire, c'est lui arrive de Chine à New York avec le rêve d'ouvrir son restaurant, voit rapidement ses espoirs s'effondrer, le laissant enlisé dans les dettes et les petits boulots invisibles. Sa femme et sa fille, qu'il n'a pas vu depuis des années, viennent enfin le rejoindre avec le désir de reconstruire une vie à ses côtés. Alors, le temps de quelques jours, lui s'efforce de leur offrir un moment de bonheur et de raviver les lumières d'un avenir possible. On voit un petit peu tout ce qui se passe quand on est travailleur émigré aux États-Unis. Et ça a l'air, en tout cas, d'être un très joli film porté par des interprètes que je ne connais pas trop, mais qui, du coup, sont assez chouettes et donnent une atmosphère assez intéressante au film sur vraiment cette question actuellement assez compliquée aux États-Unis quand on est un immigré. Voilà, donc ça s'appelle « Les Lumières de New York ».
D'accord.
Très bien.
Bon, et alors moi, si vous voulez, j'ai cherché, parce qu'effectivement, c'est pas énorme comme film intéressant. Donc j'en ai quand même trouvé un, de Jim Jarmusch.
Ah, on avait les mêmes.
On avait tous les trois le même. En même temps, quand on voit, c'est quand même...
C'est pauvre.
Ça faisait longtemps.
Très, très
alors,
pauvre.
Le film s'intitule « Father, Mother, Sister, Brother ». Vous avez compris que c'est un film...
Sur la famille.
Sur les relations entre frères et sœurs, des gens qui ont été séparés depuis de nombreuses années, qui se retrouvent. Donc il y a trois histoires différentes, parce qu'il y a aussi les relations tendues également avec les parents, qui sont alors émotionnellement très éloignés de leur progéniture, n'est-ce pas? Donc Jarmusch est quelque peu atypique, on va dire, comme cinéma. J'ai en mémoire l'excellent Dead Man, je ne sais pas si vous rappelez, western avec Johnny Depp, sur une musique magnifique de Neil Young.
Oui. Tout à fait.
Voilà, il y avait aussi Coffee and Cigarette avec... comment s'appelle ce réalisateur italien là, qui a fait La vie est belle? Rappelez-moi son nom.
Benigni.
Voilà, qui jouait.
Roberto.
Je crois qu'il y avait Tom Waits aussi dans le film.
Bah, il y est dans le film dont vous parlez.
Il
là.
Y est dans ce film-là avec Cate Blanchett, Vicky Creeps, Adam Driver et Charlotte Rampling. Alors, Le film a été présenté à la Mostra de Venise l'année dernière, en 2025, et il a remporté le Lion d'Or. Donc ah oui. On peut supposer quand même
c'est un film que c'est pas mauvais.
Voilà, bon, mais...
Bah avec celui-là... Bah après, c'est... Rien que celui-là, ça vaut le coup d'aller au cinéma, oui, parce exactement. Que Jim Jarmusch, bah, c'est Ghost Dog aussi, il me semble, la dernière
mais
voix.
Les échos ça... du passé oui. aussi, ça me paraît ouais. très... Regardez la bande-annonce, ça va vous donner envie d'aller le voir.
J'ai vu l'affiche, elle est très étrange, oui. l'affiche.
C'est vrai, tout à fait.
Ouais, ouais. Mais regardez la bande-annonce, ça va vous donner envie d'aller voir
d'accord,
le film.
D'accord, très bien, bon.
Et voilà.
Allez voir l'annonce.
Non, mais on a compris, c'est bon.
Et voilà.
Alors,
et voilà quoi.
Voilà et voilà, bah, Ciné-Sens, c'est déjà fini.
Bah, vous rigolez, on vient d'arriver.
Enfin, jusqu'à ce que tout recommence. Ah, bien sûr, vous pouvez reprendre une activité normale. Nous, on continue avec les bonnes habitudes pour cette nouvelle année. Et donc, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi nous écouter en podcast sur le site Eau de Radio, rubrique Ciné-Sens. Avant de nous retrouver en direct mardi prochain, où nous revisiterons l'univers des films d'horreur.
Et ce sera toujours à 14h sur Eau de Radio, 91.3, bien entendu.
Vous arrêtiez de faire des voix, en fait, hein, Patrick.
Non, j'adore ça.
Allez, n'oubliez pas, si vous sortez par ce temps glacial, de mettre vos bonnets, gants et écharpes.
Ah oui.
Ou bien, si vous restez chez vous, de prendre le temps de réécouter notre émission tranquillement autour d'un bon chocolat chaud avec de la chantilly.
Et la galette des rois.
Tout à fait. En attendant, la semaine prochaine, on se quitte avec la perle musicale du jour dénichée par Jean-Jacques, qui, j'en suis sûre, s'écoutera à l'international.
Eh bien, Anne-Lise, vous ne croyez pas si bien dire.
Dites-moi.
Parce que la chanson Tico Tico est indémodable. N'est-ce pas ? Et universelle. La preuve, elle a été composée en 1917 par un émigré portugais au Brésil. Elle est reprise en 2019 en polonais par Michel Bajor.
Allez, à mardi prochain et en attendant...
Bon vent à tous.
To się zdarzyło w mig, kichnąłem raz, a psik. I wtedy w oku mym zagościł taki tik. Choć chciałem, żeby znikł, pstrykałem pstryk, pstryk, pstryk. On mi pokazał figę, całe mnóstwo fik. I pomyślałem, sik, toż to wariactwo, bzik. Jutro mam koncert, a tu w oku taki tik. Strach zmroził w kościach szpik, wydałem z siebie krzyk. Niech mi pomoże ktoś, kto ma do tików dryk. To chyba jasne, w szacunku dla publiki. Nie staje się na scenie, mając takie tiki. Etyki to jawny brak, narusza to dobry smak. Każdy pomyśli, że z artystą coś nie tak. Mówią wyraźnie show biznesu podręczniki. Artysta z tikiem wręcz poniżej jest krytyki. Wybuch paniki u publiki może sprawić taki tik. Więc artysta z tikiem lepiej, żeby znikł. Wypiłem wina, łyk, zjeżyłem się jak żwik. Lecz nawet w mroku w oku ciągle tkwił ten tik. Więc w internecie klik, kliknąłem w jakiś trik. Co obiecywał sprawie, żeby tik twój znikł. Miałem nadzieję, sik, że ktoś mi sprzeda trik, co sprawi, że ten tik ucieknie, myk, myk, myk. Lecz w komputerze blik, chyba się przegrzał styk i zamiast triku miałem bigę mnóstwo pik. Ujrzałem w myślach paparazzi, a tak dziki, jak wymierzają we mnie swe aparaciki. I robią swoje pstryk, pstryk i uwieczniają mój tik, a już od rana proszę pana w prasie myk. Wreszcie poradził ktoś, by pozbyć się koszmaru. Włącz rumbę tiko, tiko do repertuaru. No i za tiko, tiko, tiko sprawi, że ten wokół tik bez szans będzie tak jak na korycie byk. W repertuaru szyk włączyłem rumbę cyk, jakbym z rękawa pik wyciągnął asa pik. I wtedy nagle tik ostatni wydał klik i tak jak wik się zjawił, piknął, zniknął wik. Ten mój nieszczęsny tik to my wariactwo dzik. Tak wik się zjawił, taki piknął, zniknął wik.